Chers frères et sœurs, et aussi vous qui nous rejoignez par les ondes de Radio Lapourdi, de Radio Présence, c'est une grande joie pour moi que de présider cette messe au cœur de votre rassemblement des chorales francophones de notre diocèse. Ça mérite d'autant plus d'être souligné que je crois cet événement n'a pas eu lieu depuis au moins plus de 10 ans. En tout cas, ça va faire 10 ans que je suis votre évêque et je n'ai pas souvenir d'un tel rassemblement, qui est comme un petit trait d'union, parmi d'autres, entre le Pays basque et le Béarn, à travers une langue commune, ce qu'on appelait dans l'Antiquité la koinonia, qui veut dire communion, entre l'hémisphère basque et l'hémisphère béarnais de notre diocèse. Et je remercie particulièrement la commission diocésaine de musique liturgique, et en particulier sa responsable, Marie-Bernard Salaberry, qui, je crois, a été la cheville ouvrière, avec d'autres sans doute, mais la cheville ouvrière, ça mérite d'être souligné aussi, de ce beau rassemblement, d'avoir eu cette initiative, ou relancé en tout cas, cette tradition, c'est ce qu'on dit. On fait une chose, une fois, c'est nouveau. La deuxième fois, c'est déjà une tradition. Et la troisième fois, on a toujours fait comme ça. Donc j'espère bien que ce rassemblement n'attendra pas 10 ou 15 ans avant d'avoir lieu. Parce que moi, je risquerais d'être déjà parti. J'ai encore 14 ans à faire, mais quand même. Hein. C'est tellement beau. Et c'est tellement magnifique de prier sur de la beauté. Je remercie d'ailleurs toutes les chorales francophones de notre diocèse qui ont répondu avec enthousiasme à cette invitation. Je sais bien que c'est une belle journée qui est centrée évidemment sur la célébration de l'Eucharistie, qui est la source et le sommet de la vie liturgique de l'Église. Mais c'est aussi l'occasion de vous retrouver dans la joie et de partager des répertoires, des expériences, et donc de vous enrichir mutuellement pour être encore plus au service de la liturgie. Vous savez combien la musique sacrée et le chant sacré ont de l'importance dans la vie de l'Église et dans la liturgie. Le pape Saint Pie X, en 1903, dans un motu proprio intitulé « Tra le solicitudini », c'est une expression italienne qui veut dire « entre eux ou parmi les préoccupations de l'heure », a précisément parlé de l'importance de la musique sacrée dont il a posé les principes de sa restauration et de sa réforme qui aboutira à la constitution Sacro Sanctum Concilium sur la Sainte Liturgie du Concile Vatican II. Et il insistait sur le chant sacré, que ce soit le chant grégorien, que ce soit la polyphanie sacrée, que ce soit le chant religieux populaire, comme un moyen de davantage permettre au peuple chrétien de participer à la liturgie. Participation active, consciente et fructueuse qui fut le principe opératoire de la réforme liturgique commandée par le Concile Vatican II dans sa constitution Sacro Sanctum Concilium. Participer à la liturgie, les chorales liturgiques ou les groupes vocaux qui chantent peut-être à l'unisson, parce qu'ils n'ont pas tous les moyens de chanter à quatre voix, sont là pour soutenir le chant de l'Assemblée, sont là pour aider l'Assemblée tout entière à participer à la liturgie, de manière active, de manière consciente, de manière fructueuse. D'ailleurs, on participe par le chant d'abord, et c'est tellement important, car comme dit saint Augustin, chanter c'est prier deux fois, et le chant c'est pour aider à la prière, et à l'unanimité de la prière, parce que quand on chante, on s'écoute davantage pour chanter à l'unisson ou même à quatre voix, pour l'harmonie du chant. Mais écouter, comme dit le cardinal Ratzinger dans son livre « L'esprit de la liturgie » dans un très beau chapitre sur la musique sacrée, il disait « écouter, c'est aussi participer, parce que c'est un verbe actif. Il y a des chants qui sont réservés à la scola ou à la chorale liturgique, qui sont plus difficiles et qui nous font vibrer à ce grand patrimoine de musique et de chants sacrés qui a traversé les siècles Et les écouter, c'est participer et laisser son âme s'élever dans la prière, vers Dieu, dans la louange, dans l'Alléluia qui est le résumé de tout le chant sacré que nous avons si bien chanté là, avec tant de cœur. Le chant liturgique a traversé les âges. Déjà, saint Paul, aux Éphésiens ou aux Colossiens, exhorte les communautés chrétiennes qu'il a fondées à chanter et célébrer le Seigneur de tout votre cœur. Mais qu'est-ce que l'on chante ? Et qu'est-ce que l'on célèbre ? Le Concile a en effet souligné la fonction ministérielle du chant sacré. Ministériel, ça veut dire au service d'eux. Ça veut dire que vos chorales qui exaltent le chant sacré sont précisément et principalement au service de la liturgie. Vous n'êtes pas là pour vous produire, même si c'est bien, que pour vous encourager et pour évaluer la qualité de votre chant, de temps en temps vous fassiez quelques récitals ou quelques concerts pour réjouir les oreilles et en même temps élever les âmes vers Dieu, en dehors même de la liturgie. Mais vous êtes là pour célébrer le Seigneur. Et qu'est-ce que nous célébrons précisément ? Les merveilles qu'il a faites dans notre histoire et dans notre vie. Le premier chant sacré que l'on connaisse et que l'on puisse recenser dans toute l'histoire du salut, c'est le cantique de Moïse. Alors que le peuple hébreu, qui se constituait à peine, venait de traverser la mer Rouge à pied sec, avoir été libéré à main puissante par Dieu de l'esclavage d'Égypte, alors jaillit de leur cœur ce chant sacré du cantique de Moïse que nous chantons précisément au cœur même de la vigile pascale, parce que la libération de l'esclavage d'Égypte, la Pâque des Juifs, est précisément la préfiguration de la Pâque du Christ et de cette libération du péché qu'il nous a obtenu de haute lutte à travers son sacrifice, à travers sa mort et sa résurrection. Voilà ce que nous chantons, nous, dans la liturgie chrétienne depuis 2000 ans. Voilà ce qui est la cause ultime de notre joie, au cœur même de nos angoisses et de nos tristesses que nous partageons avec tous nos contemporains. La mort et la résurrection du Christ. Ce sacrifice qu'il a offert une fois pour toutes, dont nous a parlé l'auteur de l'Épître aux Hébreux il y a quelques instants, qui nous a libérés du péché. C'est cette libération du péché qui est à l'origine de la souffrance et de la mort, qui est entré dans le monde à cause du péché, comme nous dit la Sainte Écriture, n'est-ce pas ? Que nous manifestons notre joie et que nous l'exprimons principalement à travers le chant, j'imagine, à gorge déployée, ce peuple unanime qui chantait les merveilles de Dieu qu'il venait d'accomplir en les libérant, en chantant ce cantique de Moïse, et que nous retrouvons dans la joie qui vous soulève dans la liturgie lorsque vous chantez à plusieurs voix ou à l'unisson, qu'importe, et que vous faites participer toute l'assemblée qui vous entoure à cette joie. C'est important cela, n'est-ce pas, de remettre la joie au cœur de la liturgie qui est toujours une fête. C'est la fête des fêtes, la liturgie, chaque dimanche. Et le chant sacré va nous aider à faire la fête. Mais quelle est la justification ultime de la fête pour les hommes ? Nous, nous le savons. C'est pas seulement d'être ensemble, même si c'est très important. C'est pas seulement de partager des valeurs communes, des richesses qui nous enrichissent mutuellement, même si c'est très important. Mais la justification ultime de la fête, c'est la résurrection du Christ. Jusqu'à ce que son dernier ennemi soit sous ses pieds, comme disait encore l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il est mort et ressuscité une fois pour toutes pour nous libérer du péché, il nous a accordé le pardon, il n'y a plus besoin d'offrir le sacrifice. Dans l'attente, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, que tous ses ennemis soient mis sous ses pieds. Et saint Paul dira, le dernier ennemi c'est la mort, qui reste tellement une cause d'affliction et d'angoisse pour les hommes, en particulier pour ceux qui n'ont pas la foi et qui n'ont pas l'espérance. La raison que nous avons de nous réjouir alors que nous sommes affligés, alors que nous sommes dans la détresse, cette détresse que Jésus annonce depuis 2000 ans, parce que nous ne savons pas le jour et l'heure de son dernier avènement. Il vient de nous le dire dans l'Évangile. Alors que la détresse est considérée par Jésus comme un signe avant-coureur de son retour définitif dans la gloire, où il y aura un changement radical que Jésus exprime dans ce discours eschatologique, c'est-à-dire relatif aux fins dernières, vers lequel le Seigneur, l'Église, tourne nos regards en cette fin d'année liturgique, qu'il exprime d'ailleurs dans un langage qui ne nous est pas commun, qu'on appelle le langage apocalyptique, bien connu des Juifs. Déjà le prophète Daniel utilisait ce langage. Apocalypse, ça veut dire révélation, ça veut dire lever le voile sur une réalité mystérieuse. Ça veut dire qu'on ne peut pas comprendre vraiment quel sera ce changement. Il sera tellement radical entre le monde présent qui passe et qui s'en va vers sa ruine. Le ciel et la terre passeront, dit Jésus. Et le monde qui adviendra, selon la promesse de Jésus contenue dans sa parole, mes paroles ne passeront pas, c'est-à-dire la vie éternelle, son royaume où il n'y aura plus de mort, où il n'y aura plus de larmes, où il n'y aura plus d'affliction, où il n'y aura plus de souffrance. Son dernier ennemi sera sous ses pieds, la mort. Ce sera la vie éternelle, la joie éternelle que nous anticipons précisément dans la liturgie, dans l'espérance. C'est la joie de l'espérance que nous voulons communiquer aux hommes à travers le chant sacré où nous célébrons notre Seigneur ressuscité. Et nous voulons le dire aux hommes de notre temps. Quand nous arrivons ici à l'église chaque dimanche, nous arrivons avec le poids de nos souffrances personnelles, mais aussi avec le poids des pauvretés. Tenez, aujourd'hui c'est la journée mondiale des pauvres. Ce n'est pas seulement des pauvretés physiques, matérielles, ce sont aussi des pauvretés morales, des pauvretés spirituelles auxquelles nous sommes tous confrontés, comme nos contemporains, partageant leurs joies et leurs espérances, leurs tristesses et leurs angoisses, qui ne sont pas seulement des détresses personnelles, familiales, avec lesquelles nous venons à la messe, mais aussi celles de notre société, celles de notre monde, où la paix est menacée, où il y a des hommes et des femmes par milliers qui sont jetés sur les routes de l'exil, où il y a des équilibres qui sont fragilisés, où la dignité de la personne humaine est parfois menacée et agressée. Alors nous venons ici pour communier dans cette joie de l'espérance. Nous croyons en un Seigneur qui est mort et ressuscité et qui a vaincu la mort. Et nous savons que nous ressusciterons avec le Christ. Quand il reviendra dans sa gloire pour juger les vivants et les morts, comme nous allons le dire dans quelques instants dans le credo, eh bien, nous voulons nous tenir prêts à entrer dans son royaume et chanter éternellement l'Alléluia, qui veut dire louer le Seigneur, sans fausse note. Et même d'ailleurs, on est tellement nombreux que s'il y a une petite fausse note, ça ne se perçoit pas. Et quand ça monte là dans les voûtes céleste, ça arrive dans une harmonie qui est merveilleuse et nos cœurs sont pacifiés et nos cœurs sont dans la joie et nous voulons être les témoins dans notre vie quotidienne pour nos frères et nos sœurs en humanité de cette joie que le Seigneur nous donne dans l'espérance. Amen.